Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment ça va, sœur Marie-Ange?
Bah, ça va très bien.
Est-ce que je t'appelle Marie-Ange?
Marie-Ange, ça va, il n'y a pas de problème.
Je crois que les premiers messages que je t'ai envoyés, je t'appelais ma sœur.
Oui.
Et j'aimais bien. Et après, je me suis dit, peut-être qu'en fait, ça ne se dit pas du tout.
Si, ouais. Mais je n'exige rien, vraiment, c'est comme tu le sens.
Trop bien. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on discute sur Instagram.
Oui, c'est ça.
Quelque chose comme ça.
Oui.
Et donc, je suis trop content que tu sois là. Enfin, on arrive à se capter et à faire cet entretien qui va être hyper intéressant parce que pour moi, je n'ai jamais eu un témoignage comme le tien. Je n'ai jamais vu en tout cas un témoignage comme le tien sur YouTube. Donc, je trouve ça extraordinaire et c'est vraiment le but de la chaîne de faire rencontrer des réalités de vie différentes. Tu es sœur ermite.
Oui.
Ça se dit, sœur ermite?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Alors, ermite, ça veut dire que... Alors, sœur, on va déjà commencer par sœur. Ça veut dire que je suis religieuse, catholique. J'ai prononcé les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance.
Ouais.
Et ermite, ça veut dire que je vis seule. Je n'appartiens pas à une communauté religieuse, je ne vis pas dans une abbaye ou dans un monastère.
Trop bien. Et ça, on va y revenir, je trouve ça hyper intéressant. Mais j'aimerais qu'on revienne vachement en arrière. À quoi ressemblait ton enfance? Est-ce que toi, tu as eu une éducation catholique?
Pas du tout.
Ok.
C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille vraiment très simple.
Ouais.
J'ai été baptisée bébé parce que ça se faisait par tradition familiale.
J'ai été baptisée à 1 an aussi.
Voilà. Et en fait, non, dans ma famille, la foi n'était pas quelque chose de vivant. Dieu, ça ne me parlait absolument pas. Les églises, très bien, mais... Voilà, je n'avais aucune idée, en fait, de cette réalité.
Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose où tu t'es dit, OK, la foi est arrivée d'un coup?
L'image que j'avais du catholicisme s'arrêtait à « la vie est un long fleuve tranquille ». Donc, c'est, pour moi, j'étais dans tous les clichés possibles. Je n'aimais pas les cathos, quoi, il faut le dire. J'avais une espèce de... Je ne saurais pas comment le dire, parce qu'à la fois, c'était une colère, une jalousie, parce que voilà, j'ai grandi pas très loin de Rambouillet, donc il y avait beaucoup de scouts, de groupes scouts, donc je les voyais tous très enjoués, etc. Donc j'avais vraiment quelque chose, une jalousie, quoi. À la fois, ça me faisait envie, et à la fois, ça me faisait peur. Et puis, j'ai vécu une scolarité très douloureuse, où j'étais vraiment... On parle beaucoup de harcèlement scolaire aujourd'hui, c'est très bien. Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Et du coup, j'étais la pauvre fille de la classe qui se prenait tout dans la figure. Quoi, en fait.
Toute ta scolarité, ça?
Toute ma scolarité, quasiment. Ouais. Et j'avais trouvé quelque part plus faible que moi. Des personnes qui ne se défendaient encore moins.
Ok.
Dans les jeunes cathos de ma classe, je dirais quelque part c'est eux qui prenaient en fait la rage et puis la colère, la peur, les douleurs que je pouvais avoir par rapport à ce que je subissais, ce qui était totalement injuste en fait.
Ouais.
Et puis un jour, je suis allée voir une fille de ma classe, donc une fille que je savais catholique, guide, etc., donc qui faisait du scoutisme, et je lui demande de me parler du scoutisme.
Ok.
Mais parce que j'aimais la nature, voilà, il y avait des choses qui m'intéressaient, le côté d'aller jouer dans les bois,
D'ailleurs, il y a plein de scouts qui sont pas du tout catholiques.
Ah oui, voilà, c'est ça. Mais alors là, pour le coup, à Rambouillet, c'était vraiment
uniquement
c'était
catholique.
Très marqué. Oui, oui. Elle a fait le pari de répondre à mes questions parce que je lui faisais peur.
D'accord, c'était pas du tout vraiment.
C'était pas du
par
tout
amitié,
fluide,
quoi.
Pas du tout. Mais pas du tout, c'est la fille que je détestais le plus dans la classe, en fait. C'est ça qui est quand même assez dingue.
Ah, donc tu lui posais des questions par coup de pression, un peu.
Ouais, je sais pas. Et pourtant, c'était pas du tout mal intentionné de ma part. Au contraire, il y a eu quelque chose. Je saurais pas dire, avec le recul maintenant, je sais. Mais à l'époque, je savais pas du tout qu'est-ce qui m'est passé par la tête d'aller parler à cette fille-là, quoi. Du coup, elle a commencé à me parler du scoutisme. Et en fait, elle a très vite commencé à me parler de Dieu. Alors moi, c'était un autre monde en fait. Hein. J'étais loin de tout ça. Et elle me demande si je crois. Si je lui dis, moi, j'en sais rien en fait. Je me suis jamais vraiment posé la question de savoir est-ce que je crois en Dieu ou pas. Le Christ, bon, non, je vois pas trop. Est-ce que c'est la personne qu'on voit sur les croix dans les églises? Bon, oui, je vois, je situe à peu près. Bon, c'était pas une évidence.
Ouais.
Et elle me demande si je prie. Et là, je lui ai dit que non, je ne savais même pas comment on fait, prier, qui, quoi, comment. Donc, elle m'a appris à faire mon signe de croix.
Ok, elle t'a appris le sens.
Le sens, le faire, le... pourquoi, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, pourquoi, etc. Mm-hmm. Et puis, le soir, avant de m'endormir, bah, je m'entraînais. Je me disais, est-ce que j'ai bien retenu ma leçon? Donc, je faisais mon signe de croix avant d'aller me coucher.
Ah, ça t'avait quand même intrigué.
Ça m'avait intrigué. Okay. Et puis, je me disais, si j'essaie de prier, bah, que je m'adresse à Dieu correctement quand même, quoi. Enfin, en y mettant les formes. Bon. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose quand même qui me dépassait, de beaucoup plus grand, qui dépassait tout et qui allait chercher en moi quelque chose d'extrêmement profond, qui m'habitait depuis l'enfance, mais... sur lesquels j'étais incapable de mettre le moindre mot, en fait.
Okay.
Et un soir, je décide de prier à genoux, de me mettre à genoux en disant « Bon, maintenant je sais faire mon signe de croix, je peux me mettre à genoux et essayer de commencer à prier. » Et là, je serais incapable de dire ce qui s'est passé, combien de temps ça a duré. Ça a été une expérience assez incroyable de rencontre personnelle avec le Christ.
Ok. Donc à 17 ans ?
Oui. Okay. Et quand j'ai fini... ma prière, en fait, il n'y a même pas de mots. C'était vraiment une rencontre. Et quand j'ai fini, quand ça, cette rencontre s'est finie, c'est comme si j'avais toujours eu la foi. Comme si j'avais toujours tout su, tout connu. Les sacrements, la communion, la confession, rien ne me paraissait bizarre, en fait.
Ok. Et quand tu parles de rencontre, c'est vraiment une discussion ou, non, c'est pas...
Alors, pour moi, ça n'a pas été une discussion. D'accord. Mais ça a été une présence, ressentir une présence et surtout de me sentir aimée comme jamais. De me dire, mais ma vie vaut quelque chose. Ça a été une expérience spirituelle vraiment incroyable.
Et donc après ça, tu te dis, ok, je m'intéresse à la catéchèse, à tout
ben,
ça.
Même pas, ça a été radical. C'est-à-dire, je me suis dit, je veux être religieuse. Je savais.
Ah, oui, ah d'accord, il n'y a pas de.
Ah, il n'y avait pas d'entre-deux. En plus, je me disais, je veux être religieuse, mais je ne savais pas ce que c'était qu'une religieuse.
Okay. Ah, donc on est sur une vraie révélation de vie entière.
Complètement.
De mode de vie, ok.
Ça n'a pas été évident, parce qu'au départ, je n'aimais pas aller à la messe. C'était très curieux. Le dimanche, je n'accrochais pas. Mon ami me disait, il faut aller à la messe le dimanche. Voilà, c'est un précepte, c'est ce que Dieu nous demande.
C'est quoi ? C'était le côté un peu hiérarchique ou un peu déconnecté du message, un peu codifié ?
En fait, ce qui a été difficile pour moi, habitant dans un village, c'est qu'il y avait une population quand même très âgée.
Okay.
Je ne voyais pas le rapport entre mon expérience... qui a quand même été très très forte.
Ouais, et très concrète.
Et très concrète. Et puis la messe, en fait, en tant que telle. Je me disais, c'est quoi la messe, en fait? Je ne savais pas. Je ne voyais pas le rapport entre les deux.
Et heureusement que c'était déjà plus en latin, parce que sinon, ça... j'imagine à l'époque où c'était... Ah, c'était en latin?
Figure-toi, c'était en français.
Ah oui.
Mais justement, je n'arrivais pas à aller à la messe. Bon. Et puis une amie de classe, parce que, en fait, j'ai commencé à avoir mes premières amies.
Ouais.
Donc ça a été aussi un moment beaucoup plus doux dans ma vie, puisque j'étais plus la cible de mépris et tout ça. J'ai pu vraiment rencontrer des personnes extrêmement bienveillantes, des jeunes qui ont su m'intégrer, qui ont su me prendre telle que j'étais, en fait, à ce moment-là. Et puis il se trouve qu'une de mes amies allait, et ses parents allaient à la messe en latin le dimanche. Et puis je lui dis, oh là là, mais alors moi le latin, je me suis fait virer du cours au bout de 2 jours en classe de 5e, c'est pas pour c'est pas pour retourner, voilà, ça me parlait pas, ça me faisait peur. Alors que là, c'est une langue liturgique, donc c'est quelque chose de vivant. Je me suis sentie vraiment portée, enveloppée par la prière, en fait, aussi des personnes qui étaient là. Et je suis rentrée dedans, en fait. Ça a été une évidence en me disant, bah, c'est là. Maintenant, je veux aller à la messe que là.
Et alors, c'est quoi les étapes après pour devenir sœur?
Alors là, ça a été un très long cheminement, puisque j'ai fait mes études.
Okay.
On ne peut pas, surtout à l'heure actuelle, la vie fait que les supérieurs n'accepteront jamais, par exemple, une personne qui n'a pas fait d'études supérieures. Parce que si on ne persévère pas dans la vie religieuse, il faut qu'on puisse après trouver un travail. Enfin, voilà. Il y a une prudence quand même à avoir. La vie religieuse, c'est un appel que l'on reçoit. C'est pas un métier qu'on choisit. Parce que ça implique toute la vie. Vous voyez, comme je dis, pauvreté, chasteté, obéissance.
Ouais, qui sont pas trois vœux anecdotiques non plus. C'est des vœux où concrètement dans la vie de tous les jours, on le ressent.
Eh oui.
Parce que pauvreté, ça voulait dire que toi, tu savais que tu n'allais pas faire une carrière.
Exactement.
Et que même si potentiellement tu faisais une carrière, parce qu'on va y revenir, mais tu es aussi dans l'art, etc. Ce que tu gagnes, à un moment, tu ne peux pas devenir millionnaire. Il n'y a pas de sort millionnaire. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas.
Non, tout à fait, ça serait complètement incohérent.
Obéissance, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose de lâcher prise complet.
Oui, c'est ça.
Et d'obéissance totale, qui est très hiérarchique aussi. Dans une société où on est tous un peu des électrons libres aussi. En tout cas, c'est très personnel, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec l'autorité. En plus, il y a un côté obéissance aveugle aussi.
Oui, qui ne fait pas perdre non plus la personnalité et puis le discernement et puis le libre arbitre. Ouais. Hein. Mais effectivement, il y a cette obéissance où on accepte de faire confiance à quelqu'un d'autre. Quand je dis l'obéissance, c'est aujourd'hui vous êtes de vaisselle, aujourd'hui vous êtes de jardin. Okay. Vous voyez, c'est pas sur des choix de vie fondamentaux. Quoi.
Ah oui, parce que c'est aussi obéissance. Moi, je le voyais obéissance sur les écrits, mais c'est aussi, par exemple, en vie en communauté, c'est obéissance de la hiérarchie. Sur la répartition des tâches.
Voilà, en communauté notamment, d'accord. C'est comme ça, okay. Oui, tout à fait.
Et il y a le dernier, c'est le vœu de chasteté.
Oui.
Qui est. Bon, moi, j'ai l'impression, je sais pas si toi, lequel a été le plus dur des trois, mais j'ai l'impression que c'est celui. En plus, dans une société où on est quand même de plus en plus, il y a de moins en moins de tabous autour de la sexualité, etc. Mmh. Mais au-delà de même de la sexualité pure, c'est se dire que tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de vie de couple, etc.
Oui.
Est-ce que ça, c'était quelque chose que tu avais déjà envisagé, sur lequel tu as fait le deuil, ou en fait, c'était déjà clair pour toi?
C'est un renoncement qui, quelque part, va de soi. Quand vous choisissez une femme ou un mari, vous savez que vous renoncez à tous les autres.
Mmh.
Donc il ne faut pas le voir comme un renoncement quelque part. Puisque on est, la vie religieuse, on peut la considérer comme un mariage avec Dieu, ce qui paraît complètement fou.
Qui est moins palpable qu'une vie... Ça n'engendre pas les mêmes problématiques d'acheter une maison,
c'est ça,
d'emmener à l'école les enfants, etc.
C'est exactement ça. Mais qui est pourtant réel dans l'affectivité.
Mm.
C'est-à-dire, ça demande une maturité affective, comme la vie dans le mariage, une vie de couple, où il y a nécessairement des renoncements pour l'autre, etc. Donc, je dirais, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, parce qu'on voit toujours le côté renoncement quand on parle de chasteté. Mais le côté positif, c'est qu'on a choisi une personne, cette personne nous a choisi, on lui est fidèle.
Mmh. Et aujourd'hui, toi, tu te sens pleinement épanouie, sans sexualité ni vie de couple?
Ah oui, complètement. Ouais. Oui, parce que...
Il n'y a aucun manque.
Non, parce que ça n'empêche pas l'affectivité.
Mm.
C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus spirituelle, mais elle est réelle. Quand on se donne à Dieu, on se donne aussi pour les autres. Donc, il y a une fécondité, il y a quelque chose, même qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, mais qui est réel.
C'est une autre forme d'amour,
Oui. C'est une autre forme d'amour, mais pourtant c'est un amour qui est extrêmement fort.
Et est-ce que, comme dans n'importe quelle relation de couple, il y a des moments de doute pour toi?
Ça peut arriver, notamment dans tout ce cheminement, dans ce discernement. On peut douter, on peut se dire, mais est-ce que c'est bien ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je suis faite pour ça? Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps dans le discernement. Parce que c'est un choix où, quand on le fait, on sait que... C'était ça, et puis ça peut arriver qu'on se trompe, ça peut arriver, mais je dirais aujourd'hui, les discernements sont suffisamment longs, on a tout le temps des études supérieures aussi pour se dire, et puis par exemple des personnes qui rentreraient plus tard en vie religieuse, qui ont déjà eu une vie de travail à côté, etc., il y a quand même une maturité qui est déjà là. Donc,
quand on parle de sœurs, on a souvent tendance à imaginer 60 ans minimum.
Tu vois, je les ai pas encore.
Non, je me doute. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à imaginer, tu vois, des personnes âgées. Alors, je pense qu'il y a aussi une vraie thématique du renouvellement aussi, qui doit être beaucoup plus compliquée aujourd'hui que des générations de soixantenaires à l'époque.
Oui, alors je pense que ce qu'on appelle la crise des vocations, ce n'est pas tant que les jeunes manquent de générosité, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui, et qui est sociétal, de l'engagement.
La société, c'est dû à quoi, selon toi ?
La société ambiante, hein, je crois, comme tu disais, voilà, l'hypersexualité de la société, où il n'y a plus de tabou. Et puis, maintenant, regarde, truc tout bête, les forfaits de téléphone sans engagement. on signe des contrats sans engagement.
Ouais.
On sait qu'avant, à l'époque de nos parents, ils rentraient dans un métier, ils restaient 30 ans dans la même boîte.
Mmh.
Aujourd'hui, c'est très rare.
Ouais, mais c'est déjà économiquement impossible aujourd'hui.
Mais
en fait.
C'est ça.
Ouais.
Les jeunes ne se voient plus dire je vais rentrer là et je vais y faire ma vie, je vais rester 30 ans dans la même boîte pour faire le crédit pour la maison. Voilà, aujourd'hui, on change tous les 3 ans, tous les 10 ans. Voilà, c'est très rare de trouver cette stabilité.
Ouais. Et est-ce que tu crois que les gens sont plus malheureux que les générations d'avant qui étaient qui sont engagés. Moi, mes grands-parents, ils se sont rencontrés à 12 ans et ils sont encore ensemble aujourd'hui à 90.
Je pense qu'il y a une profonde tristesse aujourd'hui, ambiante. Quand on croise des personnes dans la rue, ça rayonne pas forcément de joie. On sent qu'il y a un poids, il y a quelque chose qui est très lourd. On ne s'engage plus, la peur de l'autre, la peur de l'engagement, la peur de se sentir contraint par quelque chose. Alors qu'en réalité, la stabilité libératrice. Aujourd'hui, c'est un peu le problème. On rencontre des difficultés. Bon, si ça va pas, hop, on change de partenaire.
Non. Et on récupère les mêmes erreurs avec le partenaire d'après parce qu'on n'apprend jamais.
Exactement ça. Alors que quand on s'engage avec quelqu'un, c'est un cheminement qui se fait à deux.
Donc, tu finis tes études en école d'art, c'est ça ?
En marché de l'art.
De l'art, ok.
Tout à fait.
Et donc, à ce moment-là, tu finis tes études, tu sais que tu veux être sœur.
Oui,
là, c'est bon,
oui je le savais.
Tu as ça en tête depuis des années.
C'est ça.
Comment ça se passe, du coup les vœux, ça se fait auprès de qui ?
Alors, ça a été un long cheminement. En fait, on ne prononce pas des vœux dès qu'on décide d'être religieux. J'ai commencé par me rapprocher d'une communauté religieuse. Donc, au bout de 2-3 années, donc on prononce les premiers vœux, qui sont des vœux temporaires et qui sont renouvelés tous les ans.
D'accord.
Voilà. C'est comme des fiançailles. C'est un premier engagement, mais voilà. Et ensuite viennent le temps des vœux définitifs. En comptabilisant tout, c'est à peu près au bout de 7 ans. 6-7 ans.
Tu te rappelles la première fois que tu as mis l'habit ?
Alors, en communauté, oui, c'était un moment. C'était très beau. Les sœurs avaient confectionné une robe de mariée, en fait. Voilà.
Donc c'est un vrai mariage avec Dieu.
Voilà, d'accord. Oui.
Donc c'était pas cet habit-là.
C'était pas cet habit-là puisque j'étais en communauté.
D'accord.
Donc comme j'ai vu que c'était pas ça, en fait, d'un commun accord avec les supérieurs, je suis ressortie de la communauté.
D'accord.
Et après j'ai continué mon cheminement. Voilà, jusque.
Donc les différents types d'habits montrent aussi à quelle communauté tu appartiens ou le choix que tu as fait.
Oui, c'est ça. L'habit religieux, c'est vraiment le signe de la présence de Dieu dans le monde.
D'accord.
D'ailleurs, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que si je ne portais pas l'habit religieux, peu de personnes finalement viendraient me parler. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Chose très bête, quand je vais faire mes courses, par exemple, c'est très rare que je ne sois pas arrêtée pour discuter avec quelqu'un qui me demande de prier pour elle ou pour une intention particulière, pour un proche, etc. Et ça donne lieu aussi à de belles discussions, de beaux échanges.
Trop bien. Mm. Est-ce que l'habit, tu le portes aussi chez toi ?
Oui.
Ok, donc c'est
mon identité, ça fait partie de moi en fait. Hein. Okay.
Tu dors avec aussi ou...
Non, non d'accord, mais... quand même.
Ok, mais par contre le matin, que tu sortes ou pas, c'est cet habit-là.
Oui, ouais, tout à fait.
T'as pas le dimanche en jogging,
non.
En pantoufles.
Voilà, bon, sauf quand on est très malade.
Et alors parle-moi de ce choix d'ermitage que je ne connaissais pas, parce qu'au-delà même de la foi, il y a quelque chose qui est hyper intéressant, je trouve, quand vous faites un choix... donc tu vois avec ces trois vœux-là qui quand même sont des choix de vie concrètement où on peut vite devenir en marge de la société.
Oui.
Le fait de retrouver une communauté, il y a un truc de famille, tu vois, de s'appeler sœur, frère, etc. Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose où on arrive à vaincre justement, à se démarginaliser avec une famille qui a fait les mêmes choix. Et le fait de vivre seul, d'un coup, t'es face à toi-même.
Oui, c'est exactement ça. Le fait d'être seul, il n'y a pas de triche possible.
Ouais.
On est seul face à Dieu, seul face à soi-même. et on peut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ça peut avoir des fois un côté décourageant parce qu'on se dit, oh, mon Dieu, voilà, je suis comme ça, bah c'est pas très reluisant. Bon.
Alors, tu peux pas partager ce que tu vis en plus.
Alors il y a les sacrements qui sont là.
Okay.
Donc notamment la confession, qui est très importante dans la religion catholique, puisque ça permet de, je dirais, de se remettre en paix avec Dieu.
La confession, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est tu vas à l'église et puis oui. Tu te confesses
à un prêtre, auprès d'un prêtre. Voilà, en disant les péchés, les choses obscures que l'on peut porter en soi, et on reçoit le pardon de Dieu. Donc c'est aussi des moments qui sont importants, qui nous permettent de retrouver cette communion avec Dieu, mais aussi avec soi-même et avec les autres.
Et comment tu vis financièrement ? Quand tu vis en communauté, oui. C'est pris en charge par le diocèse, etc.
Alors, en fait, une communauté, c'est comme une association. Donc, c'est une structure qui a son propre fonctionnement.
Okay.
Donc, la personne est prise en charge. Tout est mutualisé, tout est en commun. Comme je suis seule, je dois subvenir à mes besoins. Ce qui n'est pas toujours facile du fait de porter l'habit religieux.
Ouais. Ça t'a bloqué sur des entretiens ? T'as senti que c'était un peu rebutoire
Bah déjà, il y a certains entretiens où je sais que c'est même pas la peine. Il faut essayer de trouver comme ça un métier qui soit compatible aussi avec mon rythme de vie, etc. Ouais. Par exemple, je vais pas être guichetière dans une banque, vous voyez. C'est...
Ouais. Ou alors ça peut être un concept aussi.
Ça peut être un concept, mais pour l'instant, je
une banque tenue par des sœurs.
Ouais, alors là,
on dirait un pitch de série plus.
Ça va scandale. Attends, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas ensemble.
Non, c'est vrai. À quoi ça ressemble tes journées ?
Je me suis fixé quand même un rythme de vie régulier.
Ouais.
Le matin, je me lève assez tôt. J'aime bien, je suis plutôt du matin.
C'est quoi assez tôt ?
5h30.
Ah oui, c'est assez tôt, oui.
Voilà. Donc je prie pendant une heure, c'est vraiment la prière personnelle. Mmh. Voilà. Ensuite, je dis l'office, donc c'est la récitation de certains psaumes.
D'accord.
Qui sont tirés de la Bible. Donc ça tient une part assez importante. Donc il y a 7 offices dans la journée.
Ok.
Voilà.
Rythmé à des heures précises ?
Alors, que personnellement, je rythme à des heures précises, mais c'est pas comme dans d'autres religions. Il y a des horaires très, très stricts à respecter. Là, c'est pas du tout ça. C'est plus personnel.
Oui, donc ça veut dire que ta journée est quand même rythmée par 7 temps forts.
Oui.
Et là même, pour trouver un travail,
c'est quand même... Et puis, il y a la messe le matin.
Ah oui, donc
la messe quotidienne.
Donc c'est déjà un travail à temps plein, en fait.
En fait, c'est ça.
Comment ta famille perçoit ton choix de vie ?
Alors, ça a été très, très douloureux pour mes parents au début, puisqu'ils ne comprenaient pas. Et puis, je suis fille unique. Okay. Donc, le fait pour mes parents de se dire on n'aura pas de petits-enfants, etc., c'était extrêmement douloureux pour eux. Et puis, bon, la vie fait qu'après, quand ils nous voient heureux, ils peuvent que... Voilà, comprendre. C'est aussi un cheminement pour la famille, hein, ça c'est sûr.
Est-ce que tu vis bien la solitude aujourd'hui ? Ou est-ce que tu te verrais vivre en communauté peut-être à l'avenir ?
J'ai vécu en communauté, donc j'ai vu que c'était pas nécessairement ma place. La solitude ne me pèse pas du tout. Par contre, ce qui peut être difficile en campagne, c'est l'isolement.
Okay.
Mais je me vois bien, par exemple, pourquoi pas me rapprocher d'une communauté, rendre des services pour la communauté.
Okay.
Voilà, pourquoi pas. Je ferme aucune porte.
Est-ce que dans ta vie de tous les jours, donc je sais que tu as une appétence à l'art, que tu as gardé tes études et sûrement même d'avant. Est-ce que tu écoutes de la musique ? Est-ce que tu vas à des expositions ? Est-ce que tu t'intéresses à l'art de manière globale ? Et pas que religieux d'ailleurs. J'adorerais que tu me dises que tu écoutes du métal chez toi.
Plus du hard rock. C'est ça.
T'as écouté
Quand j'avais 13-14 ans, okay. La grosse crise d'adolescence, la rebelle, voilà.
C'était quoi ? C'était du AC/DC ?
Voilà, c'était comment ça s'appelait ?
Evanescence, peut-être.
Oui, Slipknot.
Ah oui, Korn, ouais, Slipknot. C'est ça, c'est ça. Bon, on a eu la même adolescence. Très bien, très très bien. Est-ce que tu bois de l'alcool ?
Oh bah, ça m'arrive de prendre l'apéritif quand je suis invitée chez des amis.
Rien contre eux, il n'y a pas de...
Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de précepte, rien dans l'excès.
Ouais.
Tu vois, si je prends un verre de vin, c'est pas pour boire 3 bouteilles, quoi. Enfin,
oui,
c'est...
Okay.
C'est rien dans l'excès.
De l'extérieur, on peut avoir la sensation qu'en fait, tu vis privé de plein de choses. Et là, quand tu m'en parles, j'ai pas l'impression que tu te sentes privé de quoi que ce soit,
non,
en fait.
Non, c'est ça, oui, tout à fait.
Est-ce que tu as des amis proches qui sont hors religion ?
Oui, ma meilleure amie, bon, un peu la foi, mais c'est pas non plus quelque chose d'évident. Enfin, voilà, je suis pas du tout fermée. Hein. Ouais. C'est, au contraire, non, non.
T'as encore la vie qui permet de faire des nouvelles rencontres?
Oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, je suis jamais contre les nouvelles rencontres. C'est quelque chose d'ailleurs qui me passionne au-delà de mes centres d'intérêt, les centres d'intérêt qui peuvent être l'art sous toutes ses formes. Parce que j'apprécie tout un tas de choses. Ça peut aller de l'aquarelle à l'icône, en passant par le montage vidéo, par plein de choses. Voilà, je m'intéresse à tout. Tout ce que je ne connais pas, donc c'est quand même assez vaste. Mais ce qui me passionne vraiment, c'est l'âme humaine, en fait. C'est cette relation de l'âme avec Dieu. C'est la vie, avec un grand V. C'est passionnant. De rencontrer des personnes différentes, de voir ce qui les anime, ce qui les habite, de pouvoir avoir des discussions profondes. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément.
Il y a quelques jours, j'ai discuté avec... on a une voisine au studio qui doit avoir 70 ans, je pense à peu près, et qui nous disait, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'était écrit dans la Bible et on est en train de vivre un peu l'apocalypse. C'est d'ailleurs des choses où je pense que ça fait à peu près une dizaine d'années que mon grand-père, qui est très catholique, pareil, me le répète. Toi, j'imagine que tu suis l'actualité aussi, t'es pas coupé du monde du tout. Comment tu le vois, tout ce qui se passe en ce moment?
Je crois que c'est un appel très clair à se remettre en question. On peut pas dire qu'on est dans des temps de fin des temps, puisque ça, Dieu seul le sait, hein, on n'en a pas la connaissance. Mais il me semble très clair que, par tout ce qui se passe, Dieu appelle chacun d'entre nous à remettre sa vie en question, individuellement, et la société, nécessairement.
Est-ce que tu as l'impression de t'oublier un peu individuellement, potentiellement même par choix, tu vois, de dire je peux un peu effacer ma personnalité et qui je suis pour quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi?
La grâce ne détruit pas la nature, elle ne détruit pas notre personnalité. Au contraire, le bon Dieu n'est pas là pour faire de nous des êtres normés, en fait. Au contraire, c'est d'aller chercher, d'aller puiser en soi ce qu'il y a de meilleur. On donne le meilleur de soi-même, mais du coup, ça n'efface pas la personnalité. La preuve, je peux avoir des goûts divers et variés, j'ai ma propre personnalité, je suis comme je suis, telle autre religieuse sera autrement. Voilà, il n'y a pas d'effacement de la personnalité, mais une sublimation quelque part de faire ressortir ce que la personne porte en elle de meilleur. Et on est tous appelés à ça, qu'on soit religieux ou pas d'ailleurs.
Est-ce que ça t'arrive d'avoir des mauvaises pensées ou de te mettre en colère? Soit moine, sœur, prêtre, etc. J'ai l'impression qu'il y a presque, tu vois, quelque chose de... On est l'amour de Dieu et donc en fait, il n'y a presque plus rien d'humain, alors que j'ai l'impression que les pensées négatives ou la colère,
c'est des choses... On reste très humain. On reste très humain. Et tout à l'heure, on parlait de la confession. C'est bien ça, en fait. On a tous en soi une part obscure, mais je dirais ça, c'est l'œuvre de toute une vie. Jusqu'à la fin de nos jours, on découvrira des petites choses. On dit, voilà, je me suis mise en colère, ou là, j'ai eu une pensée contre la charité. Donc, par exemple, de dire, telle personne m'a énervée, mais elle m'a tellement énervée. Je souriais, mais intérieurement, je l'insultais. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas parce que ça ne s'entend pas que c'est pas réel.
Ouais.
C'est quelque chose qu'il faut changer en soi. On a tous des petites touches d'obscurité. Alors, petit à petit, au fur et à mesure de la vie, évidemment, il y a des choses où je ne suis pas maintenant comme j'étais quand j'avais 15 ans, hein, heureusement. Voilà, donc il y a des choses
qui s'affinent. La gestion des émotions, déjà, c'est plus la même chose.
Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui changent. On évolue, mais je crois que c'est on évolue jusqu'à la fin de ses jours.
Ouais.
C'est jamais, rien n'est jamais acquis.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
La sainteté?
Ouais, pas mal. Est-ce que c'est un jeu de mots avec la santé ou pas?
Pas
Est-ce
du
que
tout.
Ça inclut la santé dans la sainteté?
La santé spirituelle, la santé psychique, voilà. Mais la sainteté, c'est vraiment le but de toute ma vie, hein, d'être toujours le plus uni à Dieu.
Est-ce qu'on peut dire aux gens qu'ils peuvent te soutenir aussi, que tu vends des aquarelles ou des illustrations?
Je vends des icônes.
Ouais.
Des prints aussi, d'après les icônes. Et puis, il y a une association aussi qui a été créée pour soutenir, en fait, la vie de l'ermitage.
Okay.
Donc les personnes qui veulent peuvent faire un don. Donc j'ai un site internet. Voilà, et puis priez pour moi, s'il vous plaît.
Il y a plein de gens qui t'ont découvert. Je pense qu'ils ont même découvert ta vocation, ce que ça veut dire concrètement. Et c'était hyper intéressant.
Merci,
merci beaucoup.
Beaucoup
d'avoir joué le jeu et d'être venu là pour raconter tout ça.
Merci.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.